Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, chers amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. Ravi de vous retrouver. En ce mercredi 10 décembre 2020, j'ai le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Explosion en cascade dans un Golan occupé où le ciel est bouclé par crainte de l'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Vous êtes avec nous sur la radio francophone iranienne. Au sommaire tout de suite de ce journal, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que le retour possible de la nouvelle administration US à l'accord nucléaire n'a nécessité ni de négociation ni de temps. Le président du Parlement iranien qualifie de surprenant l'ingérence européenne dans l'application de la loi par le gouvernement iranien. Et puis la cause de l'instabilité dans la région n'est pas l'Iran, c'est Israël. Déclaration ce mardi 8 décembre d'Anatoly Viktorov, ambassadeur de Russie en Israël. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Reste avec nous. Le président iranien a déclaré que le retour possible de la nouvelle administration américaine à l'accord nucléaire de 2015 ne nécessitait ni de négociation ni de temps. Hassan Rouhani a déclaré que le président élu américain Joe Biden pouvait rejoindre l'accord en supprimant les sanctions d'un coup de silo. Hassan Rouhani a déclaré que c'était ce que le président sortant Donald Trump a fait lorsqu'il s'est retiré de l'accord en 2018 et réimposant des sanctions à l'Iran. Le président Rouhani a souligné que l'Iran reprendra la pleine mise en œuvre de l'accord nucléaire une fois que toutes les autres parties honorent leurs obligations. Le chef du pouvoir exécutif a déclaré que la réduction des engagements de l'Iran, y compris l'installation de centrifugeuses avancées dans l'usine de Natanz, pouvait être annulée rapidement. Le président du Parlement iranien qualifie de surprenant l'ingérence européenne dans l'application de la loi par le gouvernement iranien. Le président du Parlement iranien, Mohammad Borrell Gholibov, critiquant la récente déclaration des trois pays européens, a déclaré « La demande des Européens pour la non-application par le gouvernement iranien de la loi adoptée par le Parlement sur la levée des sanctions est un geste surprenant ». Gholibov s'exprimant mardi 8 décembre à l'occasion d'une rencontre avec l'ambassadeur italien en poste à Téhéran, a déclaré « Les relations irano-italiennes sont vieillies de 160 ans. Ce niveau de relation a conduit à une bonne coopération bilatérale et mérite d'être élargi. » Soulignant que l'Italie est un pays actif de l'Union européenne, le président du Parlement a précisé « Les relations irano-italiennes ne doivent pas être influencées par les actions et comportements unilatéraux inhumains et illégaux des États-Unis. » Se référant à la récente déclaration de la Troïka européenne, France-Allemagne, Grande-Bretagne sur un plan d'action adopté par le Parlement pour une riposte stratégique de Téhéran pour la levée des sanctions et la protection des intérêts du peuple iranien, le haut parlementaire a déclaré « La déclaration du trio européen qui a appelé notre gouvernement de ne pas appliquer cette loi nous a surpris. Ces trois pays européens qui mettent l'accent sur la démocratie et les obligations juridiques ont fait un geste honteux et étrange », a-t-il encore réagi. S'adressant à l'ambassadeur d'Italie, le chef du pouvoir législatif a souligné « L'Italie ne devrait pas permettre aux trois autres pays de parler au nom de l'Europe ». Nous négocions pas avec l'Occident sur la région, déclaration du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, en réponse à la demande de certains pays de la région de participer au processus de négociation entre l'Iran et l'Occident. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a écrit « Nous ne négocions pas avec l'Occident sur la région ». Zarif, dans un tweet posté en arabe le mardi 8 décembre à l'adresse des pays voisins du Golfe Persique et des Occidentaux, a écrit « Il semble que certains pays voisins aient demandé à l'Occident de faire partie du processus de négociation avec l'Iran ». Zarif a ajouté « En même temps, nous sommes toujours ouverts à négocier directement avec nos voisins et des projets tels que la sécurité régionale de 1986, le forum du dialogue régional de 2016 et l'initiative de paix d'Ormuz 2019 en sont la preuve ». Rencontre entre Faisal Megdad et le général Amir Hatami, le ministre de la Défense réaffirme la détermination de l'Iran à coopérer avec la Syrie pour la reconstruction. Le ministre de la Défense et de la Logistique, le général Amir Hatami, a réitéré sur la détermination de la République islamique d'Iran pour poursuivre la coopération avec Damas pour reconstruire la Syrie dans la phase de l'après-guerre, dans une perspective de paix. Le général de brigade s'exprimant mardi 8 décembre lors d'une rencontre officielle avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Megdad, soulignant que l'ennemi n'a lésiné sur rien pour faire plier la nation iranienne, a ajouté « Il en a été de même avec la Syrie ces dernières années ». Toujours dans l'actualité irano-syrienne, les cellules terroristes Daesh soutenues par les États-Unis se développent. Déclaration de Shamkhani. La présence américaine en Syrie vise à piller le pétrole syrien, à assurer la sécurité du régime sioniste et à renforcer et étendre les cellules terroristes daeshistes dans la région. Déclaration du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, Ali Shamkhani, à l'occasion d'une rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Megdad à Téhéran. Qualifiant de source de mal la présence militaire US dans la région, cette haute autorité de la sécurité nationale iranienne a appelé à mettre fin à cette implantation militaire au Moyen-Orient. La cause de l'instabilité dans la région n'est pas l'Iran, je vous le disais en titre. Déclaration ce mardi 8 décembre d'Anatoly Viktorov, ambassadeur de Russie en Israël, a rapporté Jérusalem Post. Le problème dans la région ne réside pas dans les activités iraniennes. C'est un manque de compréhension entre les pays et un non-respect des résolutions de l'ONU dans le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, a estimé le diplomate, faisant référence aux exactions et aux actes d'agression du régime de Tel Aviv visant le Hezbollah et la Syrie. Il a déclaré « Israël attaque le Hezbollah. Le Hezbollah n'attaque pas Israël ». Il a également répondu aux allégations selon lesquelles le Hezbollah creusait des tunnels reliant le Liban au territoire occupé pour mener des prétendues attaques, en disant « Il n'y a aucune preuve que ces tunnels présumés ont été construits par le Hezbollah ». Toujours dans ses remarques, l'ambassadeur russe a déploré la décision de Washington d'être retiré de l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015 avant d'indiquer « Ils ont abandonné l'accord et cela a permis à la partie iranienne de prendre des mesures de rétorsion ». L'actualité régionale avec l'Afghanistan. Le ministère de la Défense afghan a déclaré que deux forces de sécurité avaient été tuées dans une attaque dans la province orientale de Ghazni. Le ministère a déclaré que l'attaque visait une base militaire et avait fait trois autres blessés. Il a imputé l'attaque au groupe taliban. Le ministère a déclaré que trois membres des talibans avaient été tués dans des affrontements. L'incident est survenu quelques jours seulement après que le gouvernement afghan et les talibans aient accepté de poursuivre les pourparlers de paix. Sachez d'autre part qu'un rapport révèle que le nombre de civils afghans tués dans les frappes aériennes menées par les États-Unis et leurs alliés a plus que triplé en 2019 par rapport à 2017. Selon le projet Coup de la guerre de l'Université Brown aux États-Unis, le nombre de civils tués dans les raids dirigés par les États-Unis a bondi de 330% pour atteindre environ 700 l'année dernière. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis sous prétexte de lutter contre le terrorisme en 2001. Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'ambassadeur d'Iran au Yémen, dont le but apparent de faire pression sur le mouvement Ansar Allah du pays arabe. Dans un communiqué, le département du Trésor américain a décrit Hassan Irlou comme un fonctionnaire de la force route du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui a pour mission de reconnaître officiellement et de légitimer Ansar Allah. Les États-Unis ont également mis sur leur liste noire une grande université iranienne pour des liens présumés avec la force Quds du CGRI. L'annonce fait suite à des informations selon lesquelles l'administration sortante US réfléchit à la désignation du mouvement yéménite comme groupe terroriste. Pourtant, Ansar Allah, un mouvement populaire et révolutionnaire, défend le Yémen contre une agression meurtrière menée par l'Arabie saoudite déclenchée en mars 2015. Autre thème, le Premier ministre britannique Boris Johnson se rendra à Bruxelles dans le but de conclure un accord commercial post-Brexit avec l'Union européenne. Johnson devrait rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, plus tard mercredi. La réunion fait suite à des mois de pourparlers bloqués sur plusieurs questions clés, notamment la concurrence loyale. Johnson a qualifié la situation actuelle de délicate. Les responsables de l'Union européenne ont exhorté Londres à faire des compromis affirmant qu'il n'accepterait un accord à aucun prix. Les deux parties ont parlé d'un Brexit sans accord si aucune percée n'est réalisée. Après les attentats contre les mosquées de Christchurch, la Nouvelle-Zélande reconnaît avoir négligé la menace du suprémacisme blanc. Une enquête diligentée après les attaques en 2019 conclut toutefois que l'attentat n'aurait pas pu être empêché. Le rapport de 800 pages sur les attaques de la mosquée de l'année dernière à Christchurch, un carnage sans précédent dans l'histoire criminelle de la Nouvelle-Zélande, a critiqué les autorités pour avoir ignoré les avertissements répétés de la communauté musulmane. Un Australien armé de 29 ans a ouvert le feu sur deux mosquées de Christchurch à la mi-mars de l'année dernière tout en filmant sa tuerie. Le suprémaciste blanc a tiré sur des fidèles, y compris des femmes et des enfants, pendant la prière du vendredi. 51 personnes ont perdu la vie. Enfin, la junte militaire au pouvoir au Soudan veut que la mission des Nations Unies au Darfour, MINUAD, plie bagage et soit remplacée par une autre force avec un mandat moins robuste. Cette exigence a été portée à la connaissance de la communauté internationale le 26 mai dernier par le chef du Conseil souverain himself, le général Al-Burhan. Déployée depuis 2007, la MINUAD, qui est forte de 8000 hommes, a beaucoup de lacunes. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Merci de votre attention. Restez avec nous. Riposte. Explosion en cascade dans un Golan occupé où le ciel est bouclé par crainte de l'Iran. Golan occupé cible des premières frappes iraniennes contre Israël. Se vidissant très tôt, la TV syrienne a fait état de très fortes explosions entendues dans le sud de Kuneitra, le QG conjoint de l'armée syrienne et du Hezbollah. Kuneitra, qui selon le journal Pro-Riyad Al-Jarida, abriterait pas moins de 40 bases de la résistance libanaise et des milliers de combattants syriens, prompt à lancer la première offensive terrestre d'envergure de toute l'histoire contre l'entité factice qui occupe depuis un demi-siècle le Golan. La TV syrienne a fait état de ces explosions en cascade, alors même que quelques heures plus tôt, le régime de Tel Aviv avait précipitamment bouclé le ciel du Golan occupé sous prétexte quasi ridicule de vouloir faire face aux manifs anti-éoliennes des Druzes dans Majd al-Shams. Et son angoisse avait des motifs bien plus sérieux. Dimanche peu après, Kalmanar a publié une vidéo au message annonçant au camp d'en face avoir localisé des dizaines de cibles en Galilée, dont le QG de la division 91, Biranit, de l'armée sioniste, la même qui commande la totalité des forces israéliennes positionnées le long des frontières d'Israël avec le sud Liban, soit depuis la localité de Ras Nakoura à l'ouest de la localité Arduf à l'est. Un hélicoptère israélien s'est écrasé en Galilée. Hélicoptère que les médias sionistes ont décrit comme ayant été accidenté après avoir percuté un poteau électrique. Aucune information sur le sort du pilote ou des passagers à bord d'un appareil dit civil, littéralement pulvérisé dans le ciel d'une Galilée qui est depuis 5 mois, est la mort du combattant du Hezbollah Kamal Mohsen au sud-est de la Syrie, en état d'alerte maximale et donc par principe bouclé à tout vol civil. L'hélicoptère israélien a-t-il été visé par des missiles solaires de la résistance qui vient de faire sa première démonstration de force en visant le Golan occupé, s'interroge l'auteur de l'article. Au fait en Syrie, et plus particulièrement à Deir ez-Zor, les troupes américaines sont depuis 5 jours en état d'alerte, en prévision sans doute d'une riposte anti-Israël de l'Iran. Très curieusement, le jour où le Hezbollah faisait publier la vidéo sur sa mission de reconnaissance en Galilée, le CGRI lui publiait une autre vidéo, pas moins révélatrice. La vidéo met en scène le clone iranien de RQ-170 américain que les États-Unis ne cessent d'affirmer être impossible à rétro-ingénierie. Sur la vidéo, le Shahed-171 attaque les positions de Daesh, ayant traversé l'espace aérien irakien sans entrave, apparemment en accord avec les autorités irakiennes, et survolant au moins 2 bases militaires américaines, puis pénétré dans l'espace aérien syrien depuis la base d'Al-Tanf, également contrôlée par les Américains, et a lancé avec succès une série de missiles. En traversant 2 bases US en Irak et en Syrie, le Shahed-171 a brouillé la DCA US au moins dans 2 super bases Ain al-Assad et Al-Tanf. En ce qui concerne les capacités de blindage du clone iranien, elles sont plus qu'excellentes. Le drone a survolé 2 bases américaines sans que les radars des Patriotes s'en aperçoivent. La frappe au drone simultané iranien et allié, c'est à Israël que les États-Unis ont laissé le soin de s'en occuper.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Restez avec nous, je vous prie. Alors, la violence policière en France continue de faire parler d'elle avec cette interpellation polémique d'un mineur pendant une manifestation à Lyon. Alors, les manifestations se poursuivent en France contre donc cette loi interdisant de filmer les policiers, réclamant une liberté d'informer, dénonçant le comportement des policiers à travers le pays. Alors, nous avons une très forte impression que cette police française est entraînée par la police israélienne, car les actes des policiers français sont très similaires à ceux d'Israël. Voilà. Avec cette fermeture des mosquées chiites à travers le pays et pas les autres mosquées, c'est une preuve selon laquelle une présence politique israélienne est très présente donc en France. Nous allons voir plus clair avec des experts des questions internationales juste après ce reportage. Veuillez rester avec nous, je vous prie.
Que sait-on de l'interpellation polémique d'un mineur lors de la manifestation à Lyon? Des vidéos de l'interpellation d'un jeune ado conduit les mains dans les deux samedi 5 décembre à Lyon ont été partagées sur la toile, provoquant l'indignation de plusieurs internautes. Répondant à la question d'Actu Lyon, la préfecture du Rhône explique que le gone avait jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Les images montrant les forces de l'ordre interpellées, un jeune garçon qui leur arrive à peine à l'épaule, circulent depuis la veille sur le net. Elles ont été prises pendant la marche des libertés à Lyon. L'un des enregistrements fait place Bellecour montre un agent saisir le gone qui essaie de prendre la fuite. Au bout de quelques instants, alors que le jeune tente de poser une résistance, un collègue du fonctionnaire intervient et à eux deux. Les agents l'emportent. L'âge de leur charge est évalué sur la toile à 12 ou 14 ans. Une autre vidéo montre qu'un policier conduit le garçon, les mains derrière le dos, vers un véhicule. La diffusion de ces vidéos a engendré des débats sur Twitter, où pendant que les uns estiment que la place d'un enfant de cet âge n'est pas parmi les manifestants, d'autres dénoncent le comportement des forces de l'ordre, ajoutant qu'ils en prennent aux plus faibles au lieu d'arrêter les Black Blocs. La préfecture de Rennes a répondu à Actu Lyon que le jeune avait été pris en flagrant délit de jet de projectiles sur les forces de l'ordre et ce, à plusieurs reprises. Samedi 5 décembre a été une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de loi sécurité globale. Selon les chiffres de l'intérieur, quelques 52 350 personnes sont descendues dans les rues à travers la France, dont 5000 dans la capitale. La mobilisation s'est déroulé non sans incident et toujours d'après les informations officielles, 94 personnes ont été interpellées. 67 des policiers ont.
Voilà pour le reportage. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités en commençant par M. Bernard Cornu, analyste des questions internationales qui a accepté notre invitation. Bonjour, M. Cornu.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission Le Débat. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Tout le plaisir est pour nous, M. Luc Michel. D'ailleurs, ma première question va s'adresser à vous. Alors, nous parlons bien sûr de la violence des policiers en France. Le gouvernement va jusqu'à provoquer les manifestants en interdisant de filmer donc les policiers. Et là, on est témoin de l'interpellation polémique d'un mineur, un très très jeune, qui estime entre 12 et 14 ans par la police française. Est-ce que vous donnez raison à la police française d'interpeller de tels mineurs ?
Moi, je reproche qu'on est en train de polluer le débat en opérant une série de confusions. Et le but, c'est le but du gouvernement Macron. Je n'exclus pas une stratégie, un genre de stratégie de l'attention. C'est-à-dire qu'on mélange des problèmes qui sont liés à l'ordre public, des problèmes qui sont liés à des casseurs, les fameux Black Blocs, et des problèmes qui sont liés à des manifestants. Donc, il y a des abus qui sont créés, et à côté de ça, on essaye de mélanger le tout. Ce qui existe actuellement, c'est une tendance générale que vous avez souligné, les Israéliens, mais également la police américaine, dans tout le bloc occidental, on durcit les méthodes de répression de l'ordre, on militarise les forces de police, et on aménage. Ça a commencé avec le fameux Patriot Act 2. On amène des lois qui sont des lois liberticides ou sous prétexte de terrorisme, de respect de l'ordre public ou de lois anti-casseurs d'ailleurs, on limite les libertés de se réunir, de manifester. Cela s'accompagne aussi avec de nouvelles méthodes de surveillance qui sont inacceptables. La nouvelle loi française qui veut permettre à des drones de filmer, c'est-à-dire qu'ils peuvent y compris s'introduire chez le citoyen et violer la vie privée, ce sont des choses inacceptables. Ce qui règne surtout, c'est une immense confusion. On peut comprendre, moi je suis tout à fait avec les forces de police, quand elles sont là pour défendre les autres citoyens, dans le cas notamment des banlieues, où il y a tout ce qu'on appelle en France les racailles qui sont les petits voyous, mais je ne suis pas d'accord de la répression qui a été appelée par un homme politique belge, les corona-dictatures. Je ne suis pas d'accord avec la répression des manifestants et la fin des libertés publiques sous prétextes divers qui sont avancés. Donc je sépare bien les deux problèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Bien, merci Monsieur Michel. À présent, je m'adresse à Monsieur Cornu depuis Vaucluse. Monsieur Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Luc Michel quand il parle de cette confusion de cette grande partie?
Oui, d'abord je voudrais dire que je suis lyonnais et j'ai bien connu aussi quelques manifestations à Lyon, notamment pour la Palestine, mais sans intervention pour ces manifestations à Lyon. J'ai aussi fait beaucoup de manifestations à Paris, mais nous avions une sorte de service d'ordre et à l'époque il n'y avait pas ces bandes de voyous que sont violents que sont les Bad Blocs, donc pas de provocation et nous n'avons jamais eu d'ennui, même quand nous étions face à parfois 150 CRS en arrivant devant le ministère de la Justice à Paris. Voilà. J'étais d'ailleurs à Paris dimanche lors des manifestations. Je n'ai pas participé à la manifestation, je suis resté tout à fait en marge. J'approuve ce que dit. Il y a beaucoup de confusion parce que ces manifestations, soit des syndicats, soit des citoyens, sont souvent, disons, polluées par des interventions assez violente de ces black blocs, de ces bandes qui arrivent en noir de façon très coordonnée, qui se préparent entre elles pour amener des violences. Et donc, alors bien sûr, certains disent que ce sont des provocations organisées par la police. Personnellement, je ne le crois pas. Il y a toujours une tradition d'anarchistes ou de personnes violentes qui perturbent ces manifestations, qui sont contre l'encadrement syndical de ces manifestations. Et donc c'est effectivement difficile pour la police de ne pas réagir quand il y a des violences. Et du coup, la manifestation elle-même, les gens qui manifestent pacifiquement pour des revendications solides contre les libertés, contre le confinement, contre l'excès de réglementation, enfin, contre plein de mesures, disons, qui sont liberticides ou qui seront liberticides si elles étaient votées, le sens de ces manifestations est tout à fait perturbé parce que il y a beaucoup de dégâts comme à Paris, des voitures incendiées, des magasins saccagés, que ce soit des magasins ou des banques. Le sens politique de ce droit à manifester est très perturbé par ces interventions violentes.
Monsieur Cornu, si ces manifestations étaient encadrées et organisées par des syndicats, est-ce que le gouvernement irait jusqu'à écouter donc la demande des manifestants quant à donc cette loi interdisant donc de filmer les policiers?
En tout cas, il entendrait plus clairement parce que les slogans et les propos des dirigeants de la manifestation passeraient dans les médias. Mais dès qu'il y a des violences, ce n'est pas entendu et ce n'est pas donc écouté. J'ai bien dit entendu, mais le gouvernement écoute rarement l'écho des manifestations, même quand il n'y a pas de violence. C'est vrai que c'est un droit de manifester, mais en ces périodes de confinement, il est déjà difficile de se mobiliser, donc il y a moins d'effets et il y a beaucoup d'impuissance de la réaction du public face aux différentes interventions du pouvoir du gouvernement actuel contre certaines libertés, notamment à cause du confinement, qui est tout à fait, pour moi, excessif, mal justifié.
Oui, tout à fait. Monsieur Luc Michel, votre réaction quant à donc à la réaction du gouvernement donc aux propos des manifestants, même s'il y avait un encadrement chez les manifestants et moins de violence de la part des manifestants, là, on serait écouté, à votre avis?
Moi, je ne pense pas. On a un pouvoir qui est autiste. Il ne faut pas oublier qu'on a eu avant ça une année de gilets jaunes. On a appliqué sous les gilets jaunes la même chose qu'on a pris ici, c'est-à-dire qu'on criminalise les manifestants en laissant quelques centaines de voyous agir. Moi, je ne pense pas que c'est la police qui a créé les Black Blocs, mais je dis que la police et le gouvernement les laissent faire. On a aujourd'hui des moyens de fichage et d'infiltration qui sont d'ailleurs employés régulièrement pour des organisations politiques. J'ai 45 ans de vie politique derrière moi, j'ai continuellement fait la guerre avec les différents services de police, avec nos différents services secrets. On a toujours essayé, évidemment, de nous infiltrer, de nous réprimer, et donc je ne comprends pas que des gens comme les Black Blocs, dont on dit soi-disant qu'ils ne seraient pas organisés, mais qui sont reconnaissables, je ne comprends pas pourquoi on les laisse agir, en particulier dans des zones ultra-sensibles comme l'avenue Foch ou les Champs-Élysées. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces black blocs, ils servent à quoi? Ils servent à présenter tous les manifestants comme des voyous qui font de la caste, alors que ce sont des honnêtes citoyens. C'est la technique qui avait été employée contre les Gilets jaunes et que j'avais dénoncé et annoncé au tout début des Gilets jaunes. J'avais dit que Macron allait criminaliser le mouvement, allait laisser faire, et c'est ce qui s'est passé. Et on a épuisé les Gilets jaunes. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes un commerçant, quand vous êtes un citoyen, laisser des rues entières être pillées, détruites, massacrées. Vous ne pouvez pas, lorsque vous travaillez, regarder vos voitures brûler. Dans les voitures qui ont brûlé ce week-end à Paris, il y avait des camions de livraison, déjà au moment d'une crise économique. Donc je crois que le gouvernement laisse faire, et pour le reste, il est parfaitement autiste. Si M. Macron devait écouter les manifestants, ça se saurait depuis longtemps. Il a au contraire mis au pouvoir ou aux affaires, il a mis deux personnages. Castaner n'était pas d'un niveau élevé, mais à côté de Darmanin, il n'y a pas photo. Darmanin est un homme qui soutient dans tous les cas la police, quoi qu'elle fasse. Et le préfet allemand qu'on a installé au début des Gilets jaunes à Paris, c'est un homme qui est derrière une répression beaucoup plus brutale et plus sauvage. Rappelez-vous quand même la question des Black Blocs. Lorsqu'on a vu le mouvement des Gilets jaunes se développer, rappelez-vous qu'on a fait monter des centaines de blindés de la gendarmerie qui avaient bloqué Paris. Les Français ont déjà oublié tout ça. Moi, je ne l'ai pas oublié. Si on voulait empêcher les Black Blocs d'agir, ça serait facile. Et visiblement, on n'en a pas la volonté. J'ajoute qu'aux États-Unis, par exemple, il y a exactement la même chose. Le FBI laisse faire, pour des raisons de provocation, laisse faire toute une série de groupuscules. En Belgique, c'est la même façon. On a un arsenal répressif, législatif et judiciaire qui permet de casser, de massacrer le citoyen lambda, et cet arsenal, il serait impuissant contre quelques centaines de casseurs. Moi, je n'y crois pas.
Voilà. Monsieur Luc Michel, on a une très forte impression que la police française, on l'a dit au début de l'émission, est entraînée par une police israélienne, car les actes de violence sont extrêmement similaires à ceux d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, vous avez évoqué tout à l'heure la présence américaine également dans les entraînements de la police française. Est-ce qu'on peut vraiment à 100% dire qu'une police israélienne est derrière ces violences?
Écoutez, ce sont des bruits en tout cas qui courent. Ils n'ont jamais été étayés, mais on sait que des firmes israéliennes de sécurité, vous savez que les Israéliens se sont spécialisés là-dedans, des firmes israéliennes de sécurité ont des contrats avec la France, avec la Belgique, avec d'autres États, et il y a une internationalisation des forces de police qui a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. On a oublié que Interpol, par exemple, qui a été un organe de répression à de nombreuses reprises, par exemple contre la Libye de Kadhafi en 2011-2012, Interpol a été fondée par les généraux de l'ASF, ça s'appelait à l'époque l'International Criminal Polizei Cartel. C'était le premier patron d'Interpol, ça a été le général SS Reinhard Heydrich. Et encore en 2010-2011, il y avait encore le portrait d'Heydrich sur le site d'Interpol. Ça avait musclé toute une série de méthodes de répression. Les mêmes méthodes d'internationalisation de la police ont continué. Il y a des associations internationales, il y a des échanges, il y a des séminaires. Et je vous le dis, la tendance générale, c'est la militarisation des forces de police, militarisation de l'aspect, militarisation de l'organisation, militarisation des équipements. Regardez à quoi ressemblait un gendarme qui maintenait l'ordre en mai 68, qui pourtant a été très dur au niveau manifestation. Ils étaient en imperméable de cuir, avec un petit casque normal. Regardez aujourd'hui, on a affaire à de véritables provocants, à des personnages sortis de films de science-fiction. Je crois que la violence qui s'exprime, elle est due à deux choses. Elle est due d'une part à ce que cette police n'est pas encadrée, et que dans certains cas, j'expliquais, notamment face aux racailles ou dans certaines zones qu'on appelle des zones grises, la police ne se sent pas soutenue et elle a tendance à se venger sur des sites païens qui sont eux démunis face à une telle violence. Bruxelles, il y a les mêmes problèmes, par exemple, ou des grandes villes de Wallonie. Nous avons, par exemple, des quartiers entiers dans le centre de Bruxelles où la police n'intervient plus pour qu'il n'y ait pas d'émeutes. Parce qu'il y en a une dizaine d'années, ils ont des instructions, ce sont véritablement, on appelle ça dans géopolitique des zones grises, il y en a de plus en plus, ce sont des zones qui échappent à la loi générale, et où de véritables petites mafias installent une loi parallèle, dans le cas de la France en plus, vient se mêler des organisations criminelles qui sont liées au pouvoir turc ou aux organisations islamistes radicales.
Oui. Monsieur Bernard Cornu, votre point de vue sur cette question, est-ce que vous êtes d'accord qu'une présence israélienne dans la police française, dans les entraînements, car les actes de violence sont extrêmement similaires?
Je crois que ça a été reconnu pour les histoires de formation, pour les maintien au sol de personnes avec le genou sur le cou. Ce qui est sûr, c'est que la police israélienne, enfin les services israéliens, sont très équipés en renseignement, que toute la population palestinienne est fichée de façon très détaillée et que chaque fois qu'ils passent à un contrôle avec leur carte magnétique, l'information de savoir où ils vont, d'où ils viennent, et elle est traitée, qu'il y a des systèmes d'écoute, qu'il y a un système d'analyse des factures d'électricité, d'eau, qui permettent de savoir exactement si des Palestiniens reçoivent quelqu'un d'étranger à leur famille chez eux. Donc ce flicage, ce service de renseignement est très développé par les Israéliens, et c'est probable qu'ils aient eu des tentations de vendre des équipements et de vendre des méthodes à des services étrangers, notamment en France, parce que les relations, hélas, sont encore très positives entre l'État français et l'État israélien. Donc,
justement,
je n'ai pas d'informations précises, à part pour les histoires de techniques de maintien en force de quelqu'un au sol,
oui,
pour le maîtriser.
Tout à fait. Monsieur Cornu, mais ce qui est sûr, c'est que la fermeture des mosquées chiites sous l'ordre d'Israël, influencé donc sur le gouvernement français, et pas les autres mosquées, pas les autres religions, c'est une preuve selon laquelle la politique israélienne est très présente en France.
Alors vous savez, tout ça, c'est, je pense, dû à tous les fantasmes qui se diffusent sur l'islam, sur le chiisme, sur la position de l'Iran en France, dans la grande presse, dans la bouche de certains politiques. Il n'y a pas une connaissance directe du Moyen-Orient chez nos politiciens, chez nos députés, à part quelques-uns qui ont fait des voyages en Syrie, au Liban, ou en Iran, ou même en Irak il y a quelques années. Donc ils sont animés par les fantasmes que les médias propagent et qui sont parfois aussi, qui viennent parfois d'informations de presse israélienne qui sont diffusées à partir de certains députés français très en contact avec les milieux israéliens. Et cela contamine la perception de tous nos politiciens, malheureusement, qui sont plus animés par des fantasmes que par des réalités concrètes, de connaissances directes des situations de l'islam, des directions des sociétés dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays musulmans.
Monsieur Luc Michel, votre point de vue sur cette question, la fermeture des mosquées chiites, donc ce n'est pas un hasard, c'est un ordre d'Israël à la France, n'est-ce pas?
Je ne sais pas, je n'ai pas des moyens d'établir ça, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une influence réelle des lobbies pro-israéliens en France. Moi, je ne suis pas du tout, je suis opposé aux théories du complot et je les ai toujours combattues. Il y a une réalité. Le soi-disant vote juif, le complot juif, tout ça, c'est de la théorie complotiste, ça n'a pas de qualité. Les juifs en France ou aux États-Unis, ils votent pour tous les partis, mais ce qui est exact, c'est qu'il y a deux États au monde où un lobby pro-israélien est très influent dans la vie politique, c'est les États-Unis avec l'AIPAC et la France avec le CRI. On est même arrivé à une situation, M. Cornu en parlait, les Français de l'étranger sont représentés par des députés. On a créé des zones, notamment le député qui représente la zone israélienne où il y a beaucoup de Français à double nationalité, il s'appelle Meir Habib, c'est un sioniste enragé, c'est un ennemi de l'Iran, il intervient régulièrement au Parlement français, c'est assez... Il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que un des grands patrons de la presse, il y a quelques grands capitalistes qui contrôlent la presse française, il y a Lagardère, il y a Bolloré, mais il y a aussi M. Drahi, il a fait une chaîne française qui s'appelle I24, c'est de la propagande sioniste pure et dure, c'est déversé sur la France, c'est repris dans les revues de presse. Tous les jours, moi je suis abonné à la revue de presse de Gogol sur la France, je reçois I24, on n'explique pas au public que I24 c'est une chaîne de télévision, effectivement, où on parle français, mais qui est israélienne, et donc de toute bonne foi, les gens croient que c'est de l'information française. Cette puissance d'un lobby pro-israélien, elle n'existe que dans ces deux pays-là, et avec dans une toute petite région qui est la ville d'Anvers en Belgique. Ailleurs, ça n'existe pas, et ce sont des fantasmes. Ça permet d'ailleurs à la mouvance sioniste de dénoncer, de dire « voilà, ce n'est pas vrai ». Ce sont des théories. Et les théoriciens du complot, dans leurs outrances, ils servent à valider ça, puisqu'ils déconsidèrent toute critique de la politique israélienne. Vous savez, moi je suis un vieux militant palestinien, j'ai commencé à soutenir la Palestine, c'était mon premier combat politique. J'avais 12 ans, j'en ai 62 maintenant, j'étais dans la mouvance du FPLP de Georges Habash, et... À l'époque, nous étions des dizaines de milliers à manifester dans toute l'Europe pour la Palestine. Maintenant, il n'y a plus personne. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, on a diabolisé. On pouvait, à l'époque, critiquer la politique israélienne, soutenir la Palestine. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Vous savez qu'on a même des lois ou des projets de loi, M. Macron s'en est fait une spécialité, où la critique d'Israël est assimilée à de l'antisémitisme. On en est là. Et on en est là à cause de provocations qui sont les théoriciens du complot, et on en est là parce qu'on a structuré l'opinion publique, donc il ne faut pas s'étonner. Vous parliez de la main d'Israël, ce qui est exact, c'est qu'il y a des doctrines de maintien de l'ordre.
Monsieur Luc Michel, géopoliticien de Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Bernard Cornu, depuis Vaucluse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Alors, merci pour votre fidélité et à très bientôt à tous. Au revoir.
Nous avons évoqué dans notre dernier volet l'agenda secret de la Banque mondiale et du FMI et ses effets sur le vol mondial et l'appauvrissement des nations partout dans le monde. Nous avons terminé par la présentation du plan Marshall, qui est une donation des États-Unis et porte le nom du secrétaire d'État américain George Marshall, qui l'a proposé en 1947. Voilà la suite. Deux éléments du plan Marshall sont particulièrement frappants et dignes d'intérêt. Tout d'abord, le plan de reconstruction a créé un lien, une dépendance entre les États-Unis et l'Europe, cette même Europe qui a été en grande partie détruite par les forces alliées occidentales, alors que la Seconde Guerre mondiale a été en grande partie gagnée par l'Union soviétique, les énormes sacrifices de l'URSS avec 25 à 30 millions de morts selon les estimations. Ainsi, le plan Marshall a également été conçu comme un bouclier contre la Russie communiste, c'est-à-dire l'URSS. Alors qu'officiellement, l'Union soviétique était un allié des puissances occidentales. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. En réalité, l'URSS, communiste, était un ennemi juré de l'Ouest, en particulier des États-Unis. Avec l'argent du plan Marshall, les États-Unis ont acheté l'Alliance de l'Europe, une dépendance qui n'a pas pris fin à ce jour et qui a empêché et empêche toujours l'Europe d'établir des relations normales avec la Russie, même si l'Union soviétique a disparu il y a 3 décennies. La guerre froide qu'a suivi la Seconde Guerre mondiale entre l'URSS, également basée sur des mensonges flagrants, a été le témoignage direct d'une autre farce de propagande occidentale que la plupart des Européens n'ont pas encore saisie à ce jour. Deuxièmement, l'imposition par les États-Unis d'un fonds de reconstruction basé sur le dollar américain non seulement créait une dépendance au dollar européen, mais posait également les bases d'une monnaie unique qui devait finalement envahir l'Europe. Ce que nous connaissons aujourd'hui est devenu l'euro. L'euro n'est rien d'autre que l'enfant adoptif du dollar, puisqu'il a été créé sous la même image que le dollar américain. C'est une monnaie fiduciaire qui n'est soutenue par rien. L'Europe unie, ou maintenant appelée Union européenne, n'a jamais vraiment été une union. Elle n'a jamais été une idée européenne, mais elle a été proposée par les services secrets américains sous le couvert de quelques onchos européens traîtres. Et chaque tentative de créer une Europe unie, une fédération européenne avec une constitution européenne similaire à celle des États-Unis, a été amèrement sabotée par les États-Unis, principalement par l'intermédiaire de la top américaine dans l'Union européenne, à savoir le Royaume-Uni. Les États-Unis ne voulaient pas d'une Europe forte, à la fois économiquement et peut-être aussi, à terme, militairement. La plupart des économistes s'accordent à dire qu'une monnaie commune pour un groupe de pays peu structuré n'a pas d'avenir et n'est pas viable. Il n'y a pas de constitution commune, donc pas d'objectif commun, ni sur le plan financier, ni sur le plan économique, ni sur le plan militaire. Une monnaie commune n'est pas viable à long terme dans ces circonstances instables. Cela est plus que visible après seulement 20 ans d'existence de l'euro. La zone euro est dans un état désespéré. La Banque centrale européenne, également une création inspirée par la FED, et le Trésor américain est né. La Banque centrale économique n'a pas vraiment de fonction de banque centrale. C'est plutôt un chien de garde, car chaque pays membre de l'Union européenne a toujours sa propre banque centrale, avec toutefois une souveraineté considérablement réduite que les pays de la zone euro ont concédée à la Banque centrale économique sans recevoir de droits équivalents. Sur les 27 membres actuels de l'Union européenne, seuls 19 font partie de la zone euro. Les pays qui ne font pas partie de la zone euro, c'est-à-dire la République tchèque, le Danemark, la Hongrie, la Suède et d'autres encore, ont conservé leur politique financière souveraine et ne dépendent pas de la Banque centrale économique. Cela signifie que si la Grèce avait choisi de sortir de la zone euro lorsqu'elle a été frappée par la crise manufacturée de 2008-2009, elle serait maintenant en bonne voie de se redresser complètement. Elle n'aurait pas été soumise aux caprices et aux dictats du FMI, de la tristement célèbre Troïka, de la Commission européenne et de la BCE, mais aurait pu choisir de régler sa dette en interne, car la majeure partie de la dette était interne, pas besoin d'emprunter à l'étranger. Lors d'un référendum sur le plan de sauvetage en 2015, la population grecque a voté à une écrasante majorité contre le plan de sauvetage, c'est-à-dire contre la nouvelle dette gigantesque. Cependant, le président grec de l'époque est allé de l'avant comme si le référendum n'avait jamais eu lieu et a approuvé l'énorme plan de sauvetage malgré près de 70% des votes populaires contre celui-ci. C'est une indication claire de fraude, qu'il n'y avait pas de fair play. Le président grec et où ces familles ont peut-être été forcées d'accepter le renflouement ou alors. Nous ne saurons peut-être jamais la véritable raison pour laquelle le président grec a vendu son peuple, le bien-être du peuple grec, aux oligarques derrière le FMI et la Banque mondiale, et l'a plongé dans une misère abjecte avec le taux de chômage le plus élevé d'Europe, une pauvreté endémique et un taux de suicide en once vertigineuse. La Grèce peut servir d'exemple pour les autres pays de l'Union européenne s'ils ne se comportent pas bien, c'est-à-dire s'ils n'adhèrent pas aux règles d'or non écrites d'obéissance au maître de la monnaie internationale. Et maintenant, en ces temps de Covid, les pays pauvres, en particulier ceux du Sud, déjà endettés par la pandémie, augmentent leur dette extérieure afin de fournir à leur population les besoins fondamentaux. C'est du moins ce qu'ils vous font croire. Une grande partie de la dette accumulée par les pays en développement est une dette intérieure ou interne, comme la dette du Nord global. Il n'a pas vraiment besoin d'institutions de prêt étrangères pour effacer la dette locale. Ou avez-vous vu l'un des pays riches du Nord emprunter au FMI ou à la Banque mondiale pour maîtriser sa dette? Pas vraiment. Alors, pourquoi le Sud tombe-t-il dans le panneau? En partie à cause de la corruption, en partie à cause de la coercition et en partie à cause du chantage. Oui, le chantage, l'un des plus grands crimes internationaux inimaginables, étant commis par les principales institutions financières internationales sous la charte de l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. La prochaine fois, nous allons vous dire comment le FMI a tiré profit de la pandémie de COVID-19 pour endetter davantage les nations souveraines.
Thank you.